Bonjour à tous, bonsoir, bienvenue sur ce nouveau numéro hors série de temps additionnel dans lequel on va revenir sur les quarts de finale de Ligue des Champions. Asseyez-vous, prenez une bouteille d'eau, du pop-corn et profitez de cet épisode parce que je suis entouré d'une équipe d'exception ce soir. Déjà, je suis avec le représentant sagicien ou le sagiste de cette équipe, celui qui vous inculte à Pierre Sage et il a bien raison. Il est journaliste à Flash Score, il fait des articles banger que je vous invite à lire parce que c'est vraiment une pépite à lire. C'est Elliot, comment ça va ?
Bah écoute, ça va super quand on me vend, de cette manière, contrairement à un autre chef dont je tairai le nom. Un type qui fait zéro publicité. Non, je rigole. On va pas commencer à tirer à bout portant, après sinon vous avez pu me revoir, enfin du moins plus me réécouter. Mais ça va super, merci à toi Flo pour cette introduction très élogieuse.
Et tu n'es pas tout seul, tu es l'homme qui amène la bonne humeur avec lui, le Bezac, celui qui invente des mots un petit peu tirés par les cheveux. Aujourd'hui, c'est appelé Europa Ligois, en référence au match du Milan qui va commencer dans pas longtemps et sur lequel il a beaucoup hâte de voir ce match. C'est Alan. Comment tu vas, Alan ?
Bah écoute, ça va super, hein. Pas trop stressé par rapport à ce soir, avec un mardi et un mercredi de feu, hein, on va y revenir, donc c'était super bien. Et je partage ton avis sur les articles d'Eliott, ils sont vraiment bien sur Flashcore, ils sont pertinents, donc là on est un peu entre crémistes, là, entre crémeux,
entre crémistes, il a dit, c'est fort. Ouais, bah écoutez, je vous invite en tout cas à lire les derniers articles qui sont en lien avec la soirée d'Europa League d'aujourd'hui pour Elliot. Il y avait un article sur Moussa Diaby, si j'ai bien tout vu, et un article pour entre le match pour Benfica et Marseille. C'est bien ça ?
Tout à fait, c'est bien ça. Je pense que ce sera peut-être un peu tard quand vous aurez l'occasion de nous écouter, mais oui, c'est clair que ces affiches de, enfin, c'est pas le sujet du jour, mais les quarts de finale là, que aussi en Ligue Europa et en Ligue Europa Conférence sont plutôt intéressantes, donc il y a de la matière, ouais, c'est clair.
Exactement. Et toi, Alan aussi, on n'oublie jamais, mais sur TikTok avec le compte traditionnel, tu nous régales avec tes avis, et tes classements, et tes 11 qui sont toujours aussi. Parfois controversé, parfois bien pensé, mais tu n'y es pas rien, parfois c'est du tirage au sort. Et bien sûr, sur Cœur Rossonero, le podcast qui va sortir aussi un épisode sur la manche de Europa League de du soir, si je ne dis pas de bêtises.
Ouais, c'est ça, et on va parler d'Antonio Cassano qui a fait un peu débat et qui a joué pour la Roma et le Milan, donc c'était le moment opportun de parler de l'enfant terrible du football italien. Mais merci pour la pub, hein. C'est vrai que quand t'as un superbe animateur.
Allez, je sais juste vous brosser dans le sens du poil parce qu'on va commencer cet épisode dès maintenant. Donc ce dont je voulais parler avec vous aujourd'hui déjà, c'est qu'on était sur des quarts de finale assez hypants. Il y a beaucoup de monde qui disait attendre avec beaucoup d'impatience ces quarts de finale avec des affiches plutôt équilibrées ou plutôt moins équilibrées selon certains avis, avec donc des matchs, des grosses affiches dont on voulait à tout prix voir ce spectacle. Est-ce que vous avez été déjà satisfait par le spectacle qui était offert mardi et mercredi, sachant qu'il y a eu, donc déjà, rien que sur la soirée de mardi, il y a eu 6 et 4, 10 buts, et la soirée d'hier, on a eu 5 et 3, 8 buts. Donc au total, c'était 18 buts sur ces quarts de finale. Est-ce que vous avez beaucoup aimé, ou à l'inverse, un petit peu moins ? Je vais commencer par toi, Alan.
Ah bah oui, au-delà des buts, on a eu des scénarios assez rocambolesques. On s'est pas ennuyé une seule seconde, peu importe les affiches. Donc franchement, ça fait plaisir. Il y a beaucoup de puristes. Enfin moi, je fais un peu partie de cette case-là qui dit qu'un peu le football c'était mieux avant, etc. Pour diverses raisons. Et là, je trouve qu'on a vraiment retrouvé une des quarts de finale vraiment de qualité. Les quatre matchs, les scénarios sont pas faits en plus, donc ça promet quatre matchs retour d'exception. Et franchement, c'était super intéressant. Et il y a énormément d'enseignements à tirer. Donc je trouve que l'émission va être super intéressante à ce niveau-là.
Toi, Elliot, tu partages cet avis ?
Ouais, plutôt. D'ailleurs, j'en profite surtout pour lâcher ma petite stat. Mais sachez que ça faisait 13 ans que la Ligue des Champions n'avait pas connu autant de buts lors d'une manche aller de quart de finale. La dernière fois, c'était en 2011. Et ça va plaire à Alan, puisque je vais peut-être lui rappeler des souvenirs. Mais c'était le moment où le Real avait mis un 4-0 à Tottenham, que Schalke avait gagné 5-2 à Meazza. Enfin bref, c'était un sacré mois d'avril aussi. Donc non, je suis d'accord pour dire qu'on a eu du spectacle, que c'était hyper intéressant à voir et qu'il y a des chances malheureusement que les enjeux prennent le pas sur le jeu dans une semaine, dans quelques jours, mais Mais au moins on aura du suspense, quoi. Donc on va être servi, ça va être cool.
D'ailleurs, question et petit débat parallèle, c'est que certains disent que ce spectacle ait lieu grâce à l'abolition de la règle des buts à l'extérieur. Est-ce que vous partagez cette analyse ou est-ce que vous dites que même avec les buts à l'extérieur, on aurait quand même pu avoir du spectacle?
Ah, c'est une bonne question. Bah, ça dépend les matchs. Pour Real City, je pense que City, dans tous les cas, eux, qu'ils soient à domicile ou à extérieur, ils ont l'ADN pour proposer à chaque fois du jeu, etc. Donc je pense que ça n'aurait pas été perturbé. Mais par exemple, tu prends le Arsenal Bayern, par exemple, où le Bayern était obligé de faire un score, mais un nul aurait suffi, je pense, même un 0-0 ou un 1, ils auraient pris. Je pense que là, vu qu'il y a eu match nul, deux buts partout, ça devrait plus les avantager. Donc, je pense ils ont quand même essayé de jouer avec leur force, malgré tout, même s'ils n'étaient pas en forme, avec une compo très offensive. Donc, je pense que ça a pu jouer selon les affiches, mais ce n'est pas une vérité absolue, je trouve.
Moi, je trouve que quand on regarde depuis plusieurs années, là, depuis plusieurs saisons, depuis que la règle est arrivée, je trouve qu'il n'y a pas tant de fois où on s'est dit que ça avait changé des choses. Il y a toujours autant de pourcentage de prolongation, toujours autant de pourcentage. Enfin, il y a un peu plus de prolongation, mais il n'y a pas forcément toujours plus de séances de tir au but. Moi, j'ai pas l'impression que ça change vraiment grand-chose. Donc, pour le coup, et j'ai pas l'impression que les clubs réfléchissent vraiment ainsi. Au contraire. En plus, quand on regarde les éditions précédentes, voilà, enfin, il y a aucune vraiment continuité, il y a aucune vérité absolue. Enfin, bon, d'un moment, je pense que c'est juste un peu parfois le destin, le hasard du sport, hein. Puis les affiches qui font le reste. Mais non, moi, je pense pas que ce soit vraiment aussi décisionnaire que ça.
Très bien, oui, c'est vrai qu'il y a eu quand même des matchs où il y a eu des buts à l'extérieur qui étaient valides et il y a eu du spectacle, tu fais bien de le dire. Et généralement, d'ailleurs, quand une équipe à domicile concède un but à l'extérieur, ça les poussait à aller plus loin et du coup, ça offrait des matchs aussi ouverts. Donc, je suis assez d'accord que c'est plutôt nuancé cette analyse qu'on peut avoir. Il faut pas oublier ce qui s'est passé auparavant, chose qu'on a tendance un petit peu à faire dans nos avis. Surtout à chaud comme ça, sur des soirées où il y a eu beaucoup d'émotions et beaucoup de suspense. Enfin, justement, on va y aller dans ces soirées-là. Est-ce que vous voulez commencer par Arsenal Bayern ou par Real City?
Ça m'est égal, franchement. On peut peut-être commencer par Arsenal pour te faire plaisir.
Bon, bah, on va commencer, enfin, me faire plaisir. C'était quand même un match, moi, que j'ai vécu avec beaucoup de stress et puis sur lequel je ne suis pas satisfait sur le rendu final. Mais on va y aller, d'accord. Donc, ce match-là qui s'est soldé par un match nul, deux buts partout, avec Arsenal qui ouvre le score assez rapidement dans la partie. Puis le Bayern revient dans le match en revenant à hauteur de 1 partout, puis à 2-1 derrière sur un penalty. Arsenal, la seconde mi-temps, pousse, égalise. On en reste là, les équipes se quittent dos au mur, et puis tout ça va se jouer à l'Allianz Arena, où le Bayern, du coup, jouera sa survie et sa qualification à domicile. Sur ce match, ce que j'ai pu constater déjà, c'est que il y a eu une bonne entame du Bayern, puis après Arsenal s'est adapté à dominer son vis-à-vis, et il y a eu après 10 minutes, voire 20 minutes en deuxième partie de seconde période de flottement du côté d'Arsenal et des transitions qui ont vraiment fait beaucoup de mal à Arsenal et le Bayern qui a beaucoup joué là-dessus et qui a très bien joué là-dessus. Est-ce que vous pensez que toi, Alan, dans l'approche du match tactique de Tourelle, il y avait cette volonté de prendre Arsenal par transition ou il voulait plus dominer sur le terrain, à ton avis?
Bah, c'est vrai que c'était pas un Bayern qu'on avait l'habitude de voir, hein, parce que j'ai trouvé que Tourelle avait décidé de jouer quand même assez bas, en laissant la balle à l'adversaire, chose qu'ils sont pas habitués à faire. Donc, je trouve que Tourelle a essayé de mettre un dispositif, voilà, plutôt défensif avec les 11 joueurs du Bayern qui étaient souvent dans leurs 30 mètres. Et je trouve que ça a porté ses fruits, hein, parce que Neuer, il a presque pas eu que il a eu que et deux ou trois arrêts à faire max. Donc, je trouve que c'était pertinent de sa part. Fallait qu'il fasse fallait qu'il sorte un tour de son chapeau, hein, vu ce qu'ils avaient proposé face à Heidenheim le week-end dernier. Donc, il fallait du changement, il fallait que Tourelle innove, et on va dire que ça a plutôt payé, hein, puisque 2-2 à l'Emirates, c'est un très bon score pour les Bavarois, qui ont plus que ça à jouer, hein, faut être clair là-dessus. Donc, ils se devaient d'innover, et moi je trouve que le contrat est presque rempli, malgré le beau but de enfin, c'est pas un but qu'il a mis, mais malgré la magie qu'a eu Gabriel Jesus en fin de match.
Tu partages ce constat, toi, Elliot?
Oui, non. En fait, c'est difficile. Moi, je trouve que après coup, ce résultat à la fois arrange bien les deux équipes et à la fois arrange pas du tout parce que Est-ce que ce 2-2 est vraiment représentatif de la suite de la rencontre? Peut-être. En tout cas, je trouve que les deux équipes peuvent avoir des regrets. Moi, je dirais que encore plus du côté d'Arsenal, forcément, quand tu es à domicile, que tu es censé prouver des choses. Parce que voilà, parce que ça fait plusieurs mois maintenant qu'on dresse des louanges à l'égard de cette formation et à raison. Et donc, ils étaient particulièrement attendus. Je pense que même les supporters des Gunners diront la même chose. Donc, de ce point de vue-là, déjà, un 2-2 à domicile, ça peut être un peu rageant. Mais d'un côté, bah, le Bayern peut se dire, mince, on doit peut-être gagner cette rencontre parce que justement, on a prouvé qu'on pouvait être plus efficace, plus réaliste, peut-être plus en place tactiquement, enfin mieux en place tactiquement, pardon. Donc c'est un peu, je trouve que c'est difficile d'analyser cette confrontation. J'ai l'impression qu'en fait, si tu rejoues le match, il peut y avoir n'importe quel autre score au coup de sifflet final. Et du coup, c'est très étrange comme sensation parce qu'on a l'impression que les deux équipes se sont peut-être fait effectivement avoir un peu par l'enjeu, peut-être encore plus Arsenal. Donc je sais pas, je suis très dubitatif, mais j'aurais comme tendance à dire que Arsenal m'a un peu déçu. Je m'attendais à une, comment dire, une meilleure maîtrise de la situation, des événements.
Non, mais justement, moi je pense que c'est l'idée tactique qu'a eu Tourelle sur ce match, ça a permis à Martinelli et à Havertz d'être complètement paumés. Parce que moi j'ai trouvé que les deux étaient un peu décevants. Enfin, je pense que tu en as pensé, Flo. Hein, moi j'ai trouvé que Martinelli, enfin, c'est depuis son retour de blessure, hein, j'ai quand même l'impression qu'il a un peu plus emprunté. Il a du mal à faire les différences qu'il avait pu faire en début de saison. Et je trouve que Havertz, bah, son match, il est un peu à oublier parce que je ne l'ai pas trouvé convaincant. Je trouve, à mon sens, hein, tu diras ce que t'en penses, mais j'ai trouvé justement que ce qu'avait décidé Tourelle, moi, ça m'a plu et ça a permis du coup ben, à des joueurs de s'illustrer comme Leroy Sané aussi, justement, qui lui, on dit qu'il est souvent sous courant alternatif. On disait ça avec Adrien dans le décrassage, avec Gnabry aussi qui a fait aussi un bon match, qui alterne le bon et le moins bon. Et j'ai trouvé que bah, il y a des individualités qui ressortent de cette équipe de Bayern, comme Goretzka aussi, que j'ai personnellement bien aimé, que j'ai mis dans mon équipe type moi de la semaine dans ces quarts de finale.
Bah, tu fais bien me lancer sur les individualités, puisque en effet c'est ce dont je voulais parler principalement, puisque j'ai l'impression que la différence s'est jouée là-dessus. L'expérience Ligue des Champions s'est cruellement fait sentir sur les performances individuelles, avec des joueurs comme Kimmich, Goretzka par exemple, qui sont un peu mis en difficulté aujourd'hui en Bundesliga, mais qui auraient parfaitement répondu présent aujourd'hui sur ce match-là. Tu as dit que Martinelli a fait un mauvais match, je suis d'accord, mais c'est aussi parce que Kimmich, du coup, qui aurait dû être ciblé, je pense, par la technique d'Arsenal du fait de se lentir sur le côté droit, n'a jamais été pris à défaut, pris de vitesse par un Martinelli qui était certes décevant, mais un Kimmich qui a parfaitement tenu son rôle. Pareil pour un Goretzka qui a eu du mal cette saison-là, qui tient son rang et qui a réussi à maintenir à flot le milieu de terrain bavarois, donc bravo à ça. Et au contraire, tu regardes Arsenal, tous les joueurs qui manquaient un petit peu d'expérience en Ligue des Champions ont défailli. Et ont tous plus ou moins causé des erreurs qui ont perturbé la tactique que Arsenal a mis en place. Ça commence par un Kvyat qui a eu été catastrophique par rapport à un Sané, justement. Là aussi, là, on a senti la différence d'expérience en Ligue des Champions entre ces deux joueurs-là. Gabriel aussi qui fait une erreur et qui entraîne le but, le premier but d'Arsenal, même le second but, il est responsable dessus. On l'a senti un peu pris à dépourvu. Saliba fait pas une très bonne première mi-temps. Rice, c'est pas le joueur qu'on a l'habitude de connaître en première ligue et qui perd plus de duels, qui est moins tranchant, qui perd un volume de jeu. Havertz, je suis un peu moins d'accord avec toi. Alors certes, il n'a pas marqué de but, mais sur le second but, il fait un travail monstrueux pour ouvrir l'espace pour Trossard justement et créer des décalages pour Arsenal. Le reproche que je peux lui faire, c'est que physiquement, il a peut-être un peu moins existé, mais ça venait aussi du très bon travail du bloc bas du Bayern, qui a quand même beaucoup empêché les passes d'Arsenal et qui a aussi réussi à maintenir, on va dire, un bloc pour concéder le moins d'occasions possible. Il y a un tournant dans ce match-là aussi, quand même, qui est le face-à-face entre White et Neuer après le 1-0, où White se retrouve tout seul face à Neuer et rate ce face-à-face. Qui est le tournant du match. Si Arsenal met le but et qu'il y a 2-0, je pense qu'après le Bayern ne revient pas. Ils sont noyés, ils sont asphyxiés et ne reviennent pas. C'est la différence, je pense, entre les deux équipes aujourd'hui. C'est que la Ligue des Champions, c'est une compétition où la transition, on va dire, représente peut-être 80-85% des actions de but. Je ne sais pas si vous êtes d'accord ou pas, mais le Bayern a donné une leçon de transition à Arsenal. Et on a vu derrière un Arsenal qui était très dominant sur les 20 premières minutes, qui a eu peur de s'exposer aux transitions et qui était aussi beaucoup moins tranchant dans ses passes pour créer le décalage et mettre le deuxième but. Est-ce que vous l'avez senti ça ou pas?
Oui, on l'a senti, mais moi je trouve que c'est une affaire un peu de réalisme dans les deux surfaces quand même, parce que globalement Arsenal a maîtrisé, enfin a eu le ballon, mais au-delà du fait d'avoir eu le ballon, je trouve a eu beaucoup plus de temps fort. Alors oui, d'accord, le Bayern a su exploiter les temps faibles de son adversaire, et ça fait partie du jeu, et voilà, et ça compte énormément dans un match comme celui-ci. Mais je sais pas, je trouve qu'en fait ce Bayern-là ne s'est pas non plus sublimé, quoi. Ils ont très bien joué le coup, mais il s'est pas du tout sublimé. Là on parlait de Kimmich, moi je trouve que Kimmich il a pas été si impactant que ça, il a été neutre. Il a joué sur le fait que justement il avait pas été inquiété dans son couloir, mais dans le fond moi je l'ai pas trouvé si impactant que ça.
Ah non, je dis pas qu'il était très bon, mais je dis qu'il a pas pris l'eau comme des joueurs d'Arsenal ont pris l'eau, par exemple sur Kivior. Tu compares un Kivior côté gauche justement de Arsenal et côté droit de Bayern. Tu vois un joueur qui est Kivior qui a perdu beaucoup de duels et qui s'est fait manger par Sané, et un joueur Kimmich qui, certes, n'a pas été bon, mais il n'a pas perdu beaucoup de duels non plus.
Ouais, mais personne ne s'attend à que Kivior fasse un meilleur match que Kimmich.
Non, personne ne s'attend à ce qu'il prenne l'eau comme ça.
Ouais, mais est-ce que c'est vraiment... Enfin, j'ai du mal à concevoir que cette rencontre-là se joue en partie là-dessus.
Non, oui, alors... j'ai pris des exemples, mais je te parle plus du coup des... Oui, non, c'est pas la clé du match et c'est pas le facteur X du match. Mais selon moi, ça a été vraiment, on va dire, un exemple sur lequel qui montre que le Bayern a quand même su tirer parti de son expérience en Ligue des Champions par rapport à Arsenal parfois trop expérimenté, qui a été pris par l'enjeu et qui n'a pas eu la maîtrise qu'il peut avoir en Première Ligue sur des matchs où il y a moins d'enjeux.
Je pense qu'effectivement, oui, c'est ça. Je pense que il y a eu certaines individualités qui sont passées à travers. Là-dessus, on est d'accord, à cause du fait que c'est un quart de finale de LDC et qu'il faut réussir à répondre de la meilleure des manières. Ça, je suis totalement d'accord. Après, voilà, encore une fois, le Bayern, tu vois, quand t'es mené 1-0 au bout de 12 minutes, on se dit pas que Tourelle fait des bons choix, on se dit pas que la rencontre peut tourner en la faveur des visiteurs. Donc, j'ai l'impression qu'il manquait peut-être un petit truc pour que Arsenal aille au bout, mais en tout cas, à titre perso, et je pense que c'était le cas de tout le monde, c'est pas une take incroyable ce que je vais dire, hein, mais voilà, je pense qu'au bout d'un quart d'heure, on se dit pas qu'il y allait avoir 2-2 au score final. Et c'est ce que je dis, c'est que. Encore une fois, tu rejoues le match 10 fois, je ne suis pas certain qu'il y ait match nul 10 fois, en fait. Donc, on verra. Et c'est là où on se dit que le Bayern peut être très heureux de ce résultat, parce qu'avant un retour à l'Allianz Arena, forcément, tu te dis, si je prends les choses du bon bout et que Arsenal ne se sublime pas pour le coup, la qualification, elle est pas en poche, mais elle prendrait un bon chemin, quoi.
Moi, je pensais que justement, Arsenal avait un boulevard quand tu vois l'axe défensif du Bayern, où tu avais Leimer qui fait pas une grosse saison, De Ligt qui est mi-figue, mi-raisin, accompagné par Dyer qui est préféré à Upamecano. Donc là, tu sens que ça sent un peu le bricolage, plus un Neuer qui est plus aussi souverain qu'à l'époque, et Ulreich qui avait été même titulaire le week-end dernier. Donc je ne savais pas s'il y avait une gêne ou quoi. Je me suis dit qu'il allait avoir plus de boulevard pour Arsenal, plus d'occasions vraiment franches, et au final, comme on dit, le Bayern a réussi à bien jouer le coup finalement.
Neuer a quand même beaucoup fait le taf aussi pour contraindre le pressing d'Arsenal, et il a eu une qualité de relance absolument fabuleuse, et ça a beaucoup handicapé Arsenal. Et même les défauts de relance que, par exemple, Dyer a pu avoir, ils ont été compensés justement par ça. Donc il y a quand même eu, je trouve, des satisfactions côté bavarois. Et j'ai l'impression qu'au match retour, donc Davis sera suspendu. C'est peut-être une bonne chose vu le match qu'il a fait et vu ce que ça va donner. Et Pavlovic devrait revenir. Donc je pense que le milieu de terrain de bavarois sera aussi plus renforcé. Et je vous rejoins sur le fait que le match sera très ouvert. Et là encore, on risque d'avoir un match, on va dire, sur lequel il sera difficile de déterminer l'issue. Puisque, suivant le scénario, le match pourra facilement basculer d'un côté comme de l'autre.
Je viens d'y penser, un petit éclair à la tête. Je ne sais pas si ça vous fait penser à ça, mais le scénar pourrait peut-être être similaire à celui qu'il y avait eu à l'époque entre la Juve et le Bayern, avec le 2-2 à l'aller justement du côté de la Juve, et le 2-2 qui s'était transformé en 4-2, mais si mes souvenirs sont bons, c'était surtout la Juve qui menait 2-0, et derrière le Bayern avait mis 4 buts, 2 pour aller en prolongue et 2 autres pour se qualifier ensuite avant les tirs au but. Je dis pas qu'il va à la même chose, mais je sais pas. Je me dis, il pourrait y avoir un scénario similaire dans le sens où peut-être le pire qui pourrait arriver à Arsenal, c'est que ils se disent, on se lance à l'abordage parce que entre guillemets, on n'a pas trop à perdre. Enfin, si, mais je veux dire dans le sens où on prend des risques parce qu'on ne sait pas vraiment gérer ce genre de situation, sauf si Arteta nous sort une dinguerie, ce que je souhaite aux Gunners. Mais peut-être qu'ils se diraient, bon allez, on essaye juste d'affoler la défense bavaroise et derrière, il y a du spectacle, des buts, mais au final, pas de qualif sereine pour Arsenal. Peut-être pas de qualif du tout, d'ailleurs, on ne sait jamais.
Non, bien sûr, bah, ça va être la clé, je pense, pour Arsenal. Ça va être de savoir maîtriser son match correctement et de ne pas s'exposer à des erreurs, des micro-erreurs qui seront payées cash derrière. Je vais juste finir quand même en rendant hommage à Harry Kane, qui avait fait un match, je trouve, fabuleux dans ses décrochages et dans sa qualité de passe. C'est lui qui, à chaque fois, était à l'origine de toutes les animations offensives du Bayern. Donc là aussi, c'était quand même un gros match de sa part. Et bah, le match retour sera très ouvert. On verra pour la suite. En tout cas, rien n'est décidé et le suspense reste entier. Donc, voyons, le meilleur l'emportera. Et le meilleur sera peut-être une surprise, on verra. L'autre match du soir, c'était le Real Madrid qui a reçu donc à Bernabéu Manchester City. Un match fou là aussi, 3 partout. Avec donc City qui est même, qui marque un but pardon, très rapidement. Le Real qui revient dans la partie encore plus rapidement. Puis après, ça s'est rendu coup pour coup avec City qui revient à 2-2 avec Foden qui marque un but encore une fois magnifique. Valverde, non, qui repasse devant après Guardiola, excusez-moi, qui met le 3-2. Et Valverde, l'inévitable Valverde en Ligue des Champions, qui met une reprise de volée qui permet au Real de maintenir l'égalité, 3 partout. Les deux équipes se quittent dos au mur. Ça a été là aussi un match assez fou, je trouve, dans l'intensité. Les deux équipes se rendaient coup pour coup. On a vraiment senti, je trouve, moi, deux gros patrons, deux grosses équipes de Ligue des Champions qui s'affrontaient et qui étaient au top de leur forme. Tu as eu ce même ressenti, Elliot, ou pas, toi?
J'ai eu. Oui, non, j'ai trouvé que City, finalement, gérait plutôt bien son truc, a été surpris effectivement, de la très bonne première période du Real. En fait, je pense que le déclenchement, c'est le fait que le Real arrive à renverser City en 2 minutes. Alors qu'on a l'impression qu'on se dirige vers, pas comme le 4-0 de la saison dernière, mais un scénario un peu similaire du genre City n'est pas du tout inquiété, maîtrise son sujet, marque moins de buts parce que c'est un match à l'extérieur, parce que City semble moins flamboyant, mais au final on a l'impression que voilà, City est parti pour contrôler la partie et n'est pas du tout inquiété. Et au final non, au final ça joue très haut, le Real en profite, et derrière on pense que voilà. Enfin voilà, après non, comme tout le monde l'a dit, c'est un match fou parce que justement, il n'y a plus vraiment grand-chose qui est maîtrisé. Enfin voilà, c'est le foot quoi. Et c'est ce qui a plu beaucoup aux gens, le fait que justement, enfin, les événements, le cours de la partie semblait un peu échapper aux deux staffs et aux deux équipes. Mais globalement, moi, ce que j'en tire de cette rencontre, c'est que bah, City peut être très satisfait. Je pense que c'est exactement ce que voulait Guardiola, surtout quand on sait que cet homme est habitué au comment dire, pas aux langues de bois, mais voilà, il aime bien caresser dans le sens du poil l'ennemi madrilène, donc et dire du bien du Santiago Bernabéu. Donc, je pense qu'il est très satisfait de ce 3-3. Et à l'inverse, comme j'ai pu le lire chez les fans madridistas, bah, certains sont très pessimistes parce qu'ils voyaient en ce match aller l'occasion de passer devant et de frapper un grand coup, parce qu'on va y revenir, mais ils ont plusieurs occasions pour porter l'avance à 3-1 et ça change tout derrière. Donc au final, non, même si le score indique que les deux défenses ont été mauvaises, moi je trouve que voilà, City a été meilleur et City aurait peut-être même mérité la victoire malgré tout. Parce que dans la physionomie du match, le Real disparaît un peu quand même en seconde période.
Ouais, franchement, c'était un match de légende, hein, on peut le dire. Hein, je pense que c'est l'un des matchs de l'année pour le moment. Les deux équipes se sont rendues coup pour coup. En même temps, quand Ancelotti et Guardiola, c'est probablement peut-être les deux meilleurs entraîneurs du 21e siècle. Hein, donc forcément, on en attendait beaucoup et on a été vraiment très servi avec deux équipes sûres de leur force, hein, sûres de leur jeu, notamment le Real, hein, qui savait qu'en transition, ils allaient faire très mal. Surtout en l'absence, enfin, on va revenir aux individualités après, mais moi je trouve que quand tu n'as pas Walker sur ton côté, bah, ça laisse forcément des brèches. Et tu as un Rodrigo qui cavale comme jamais et qui, moi, m'impressionne vraiment de plus en plus. Donc, forcément, c'était un très bon match, très tactique. Et pour autant, enfin, il y avait des coups tactiques, et pour autant, c'était très débridé. et un scénario qui laisse planer le suspense pour le match retour. Je pense qu'on aura un match du même acabit au retour, hein. Il n'y a pas de raison pour ça, et je pense que ça va vraiment être kiffant, et on a passé un merveilleux moment, et dommage que c'était en même temps que Arsenal-Bayern pour le coup.
À titre d'exemple, moi je dirais que par exemple, enfin, excusez-moi pour la pétition, mais j'en ai parlé tout à l'heure, le 4-0 au retour l'année dernière, m'a beaucoup plus impressionné dans le sens où je trouve que, comment dire, la physionomie de la rencontre fait que je retiens, je sais pas comment l'expliquer, mais parce que tout le monde s'est accordé à dire que oh, c'était un match fabuleux, parce qu'il y a eu le 3-3, parce que le scénario, je trouve que dans les faits, quasiment tous les buts sont sur action individuelle. Enfin voilà, City, là où la saison dernière ils avaient su prendre le meilleur sur le Real parce que collectivement ils étaient meilleurs, là cette semaine c'était quoi? C'était une ouverture de génie, enfin une idée de génie de Bernardo Silva, un but de génie de Foden, Vardiol qui se rend compte qu'il a un pied pour marquer. Enfin je veux dire, dans les faits, il y a un monde où City ne parvient vraiment pas à s'exprimer collectivement. Et je trouvais que, enfin, j'ai pas envie de passer pour l'aigri de service, même si je le suis un peu, mais je trouvais que finalement, oui, match de légende, parce que 3-3, parce que le niveau reste fabuleux. Mais je sais pas, moi je suis resté sur ma faim parce que je me dis, au final, ce sont deux équipes qui ont dû s'en mettre à leurs individualités pour essayer de trouver la faille. Et c'est pas forcément habituel du côté de City.
Le Real un peu plus tôt, mais quand même.
Ouais, mais en Ligue des Champions, je sais pas, j'ai l'impression que ils ont les moyens justement de trouver, comment dire, de trouver ouais, la solution grâce à grâce au, enfin grâce au je vais y arriver au collectif, enfin, je veux dire au schéma de jeu, enfin
ouais, voilà, l'animation,
au plan de jeu, etc. Animation, ouais. Merci. Donc je sais pas. Moi, je pense qu'effectivement le suspense va être de mise, mais je suis prêt à parier que le match retour n'aura rien à voir avec le match aller.
Ce qui me fait peur avec ce City Saint Walker, c'est la façon dans laquelle ils sont exposés rapidement aux transitions. On l'a déjà vu un peu au match aller, mais ce City-là est moins souverain dans le jeu. Déjà, tu l'as très bien dit, Elliot. Ils ont moins de contrôle, puisque bon, même si là, Grealish et Silva, c'est des joueurs qui sont censés amener un certain contrôle et avoir une meilleure capacité à contenir le ballon et à laisser le temps au bloc de monter et d'assouvir une dimension, une possession assez haute, excusez-moi, sur le terrain. Cette saison, on voit un petit peu moins. Kovacic aussi est encore en apprentissage. Je trouve que c'est un peu le maillon faible dans cette équipe-là, puisque le double pivot avec Rodri ne marche pas forcément. En phase de relance, il a son utilité. Je trouve qu'il est de mieux en mieux utilisé, mais on sent que Guardiola n'a pas encore trouvé la clé pour rendre ce City aussi efficace et aussi huilé qu'on l'avait auparavant avec le schéma de l'année passée, où on avait un Stones du coup qui montait avec Rodri, et puis derrière, on avait les 5 de devant limite qui jouaient entre eux et qui arrivaient à se trouver beaucoup mieux. De Bruyne, c'est aussi, à mon avis, l'absence de De Bruyne s'est fait beaucoup sentir. On sent quand même que lui, c'est vraiment un joueur encore plus dans les grands matchs qui manque à City. Et même si Foden était assez bon, il a quand même moins d'assises et moins de souveraineté dans la passe laser et puis dans les demi-espaces que peut exploiter Foden, que lui, il exploite un petit peu moins. Donc, c'est vrai que ce City-là est moins fort et je te rejoins, moins impressionnant que la saison passée.
Ben il y a un joueur que tu n'as pas cité, hein, tu as cité De Bruyne, etc. Mais il manque aussi un Gundogan qui, moi, je trouvais l'année dernière, était énormément important d'une part et qui assurait vraiment le lien entre le milieu et l'attaque. Et franchement, il manque pas mal, hein, au final, à cet équilibre de City. Après, ça n'empêche pas que ça reste une équipe très, très forte avec un Foden, comme on l'a dit, capable de mettre des buts de folie comme c'était le cas mardi soir. Donc franchement, attention à City, même s'ils ont l'air moins sereins que l'année dernière, ça reste quand même une équipe ultra dangereuse, on le sait, mais il y aura peut-être des failles que le Real pourra peut-être expérimenter, notamment avec les Beyblades qu'ils ont devant.
Moi, j'estime que si un joueur comme Rodri, parce qu'on n'en a pas parlé, si un joueur comme Rodri parvient à élever son niveau de jeu, parce que je ne l'ai pas trouvé si impressionnant que son milieu de terrain, je trouve qu'il n'a pas fait tant de différence que ça que d'habitude, et ça a joué. S'il parvient à être au-dessus du lot au retour, je pense que le Real ne pourra pas vraiment exister. Et je fais partie des gens qui pensent que, alors je ne dis pas que le City va gagner 4-5-0, mais je pense que le Real ne va pas trouver les solutions pour embêter ce City. Parce que la confiance accumulée malgré tout, le contexte, l'historique de la saison dernière, feront que normalement City devrait se qualifier selon moi. Et vous avez parlé de De Bruyne, bah oui, son absence s'est fait sentir. Si j'ai bien compris, c'était parce qu'il ne se sentait pas bien. Normalement, dans quelques jours pour le retour, il sera là. Et avec un De Bruyne en plus, je vois pas dans quel monde City ne s'en sort pas pour gagner, quoi.
Moi, je trouve qu'il joue mieux avec Rodri. Hein. De Bruyne, enfin, je trouve que Rodri joue mieux quand il y a De Bruyne aussi. Hein. Je pense que c'est lié aussi. Hein, donc, à voir au match retour.
Ah bah oui, c'est la pierre angulaire de ton animation qui est absente. Il y a aussi deux individualités qui nous ont un petit peu déçus sur, même je veux dire trois, mais il y en a une qui c'était un peu attendu. Il y a Luna du côté madrilène qui a été un peu moins bon aussi et qui sur lequel on peut reprocher deux, trois petites erreurs sur les buts de City. Mais ça, c'était un peu plus attendu. Il y a Bellingham et Haaland qui ont un peu déçu quand même sur ce match-là. Haaland s'inscrit un petit peu dans la suite de ce qu'on voit cette saison-là, avec un joueur qui est un peu moins tueur devant le but, qui rate quand même beaucoup d'occasions. Alors c'est vrai que si on regarde un petit peu, c'est ça par rapport à la saison passée, il a à peu près le même taux de conversion d'occasion en but. Mais ça se ressent un peu plus cruellement cette saison avec un collectif qui est moins huilé, il a moins d'occasions qui lui arrivent et puis il peut un peu moins se reposer sur d'autres joueurs et c'est ça qui est dommage et qui lui porte préjudice. Et un Bellingham qui depuis quelques semaines n'est plus autant au top que ce qu'on a vu en début de saison. Est-ce que vous avez des explications par rapport à ça? Est-ce que vous avez senti la même chose?
Vas-y, Alan, je t'en prie.
Bah moi non, bah pour Haaland, moi je trouve surtout qu'au lieu de ce que on a vu hein, sur les réseaux notamment que bah, quand Haaland est moins performant, on aime bien lui taper dessus, mais je trouve qu'on ne rend pas assez les lettres de noblesse à Rudiger pour le coup. Moi je trouve que c'est surtout lui qui a fait un gros match. Il a remporté tous ses duels quasiment. Il a été imposant et c'est un leader aussi. Et je trouve qu'il sublime toute la défense rien qu'à lui tout seul avec sa sérénité. Donc, pour Haaland, je pense que oui, c'est surtout la grosse perte de Rudiger qui a fait que Haaland n'a pas pu s'exprimer. Il n'a rien lâché. Et franchement, pour moi, Rudiger, cette saison, c'est peut-être top 3, voire top 2, enfin top 1 même peut-être, hein, de la saison pour le coup. Et Bellingham, bah, finalement, oui, c'est vrai que ce n'était pas son meilleur match. On sait qu'il, voilà, là, forcément, on savait qu'il n'allait pas avoir un. Qu'il n'allait pas être stratosphérique pendant 38 matchs, enfin 38 plus l'Europe toute la saison. Donc, il y a une petite dose de méforme qui doit peut-être s'accoupler avec les grosses échéances et le stress parce que lui, voilà, ça a beau être la star de l'équipe, il n'est pas habitué à jouer de grosses échéances comme ça aussi. Hein. Donc, je pense que c'est la découverte aussi pour Bellingham du très, très, très haut niveau, des très, très grosses échéances du moins. Donc, va falloir qu'il se forge et qu'il apprenne ça pour pouvoir être meilleur au retour parce que le Real pourra passer, surtout s'il y a un Bellingham qui retrouve toute la plénitude de ses moyens.
Je suis plutôt d'accord et je dirais que pour parler de Bellingham, je pense que c'est un juste retour des choses dans le sens où en début de saison, il a comment dire, il a bénéficié d'un effet de surprise premièrement, même si c'est totalement mérité ce qu'il a pu accomplir, mais je dirais que il est rentré dans le rang plutôt naturellement, dû au fait, en partie parce que le Real Madrid ne lui permet pas forcément de toujours se sublimer. Cette semaine, s'il voulait briller, bah c'était pas l'animation de jeu qui allait lui permettre de le faire. Encore plus face à un City qui ne laisse pas vraiment de place à la créativité ou quoi. Enfin, c'est difficile de s'exprimer face à une équipe qui cadenasse le jeu. C'est pas Bellingham qui va faire des courses en transition, il sait le faire, mais ben voilà, on sait très bien que c'est Vinicius et Rodrigo qui vont être amenés à le faire davantage. Donc quand tu sais que Bellingham il bénéficie d'une possession à outrance en championnat parfois parce que bah, les oppositions le veulent, là c'est beaucoup plus dur. Sans ballon, quand il a beaucoup moins le ballon, il sait jouer sans ballon, mais face à City c'est dur parce qu'on sait que la saison dernière City était imprenable quand t'avais pas le ballon. Je pense que moi c'est le contexte qui fait que. Et comme tu l'as dit, Alan, le fait qu'il n'ait pas forcément d'expérience à ce niveau-là, ça n'aide pas. Quant à Haaland, moi je dirais que c'est un peu aussi le juste retour des choses. C'est un profil qui, on le savait dès le départ, n'allait pas forcément toujours cliquer avec l'animation mise en place par Guardiola. Bah voilà, maintenant on se rend compte que il sait briller quand il le faut, parce qu'il a il a un talent et des qualités incroyables. Mais son profil fait qu'il ne pourra jamais briller autant. Que s'il s'appelait, je sais pas moi, Luis Suarez ou bah, Julian Alvarez, ne serait-ce que pour citer son partenaire, enfin son coéquipier. Donc, moi je dirais que. Enfin, j'ai toujours fait partie de ceux qui pensaient qu'il fallait être tranquille plutôt indulgent avec ces joueurs-là parce que ce qu'ils font, c'est déjà suffisamment fort. Et je suis persuadé que Haaland aura son mot à dire d'ici la fin de saison, comme Bellingham. Je pense que Bellingham va, même si imaginons que le Real se fait éliminer en Ligue des Champions, Bellingham aura les moyens d'emmener le Real jusqu'au titre, normalement. En tout cas, c'est bien parti. Et pareil pour Haaland. Si Haaland dispute les demi-finales, la finale, l'année dernière, on sait qu'il n'avait pas marqué en finale. Moi, je serais pas étonné de le voir cette fois-ci marquer, pourquoi pas. Moi, je pense qu'il faut pas s'alarmer. J'en vois pas trop l'intérêt de toute façon.
Est-ce que vous avez des choses à rajouter avant de passer au match du mercredi?
Non, je pense qu'on ouais, on a été assez complet. Grosse mention aussi à Guardiola aussi, hein, qui, au-delà de son but, j'ai trouvé qu'il a fait un bon match. Tout comme Valverde, hein, parce que beaucoup mentionnent le gros match de Camavinga, mais je trouve que le match de l'ombre de Valverde, au-delà de son but, est vraiment très bon pour le coup. Et je tenais quand même à le mentionner parce que il y a beaucoup de lumière sur Camavinga, puisqu'il, je pense qu'il a marqué aussi, ça a dû compter. Mais je trouve que le match. Sans ballon et le match de l'ombre de Valverde est très intéressant, perso.
Je fais de l'extra time, excusez-moi, mais là, c'est vrai j'ai pas forcément volontairement voulu beaucoup parler du Real parce que je trouvais que c'était pas forcément significatif. Mais ce que je veux dire, c'est que tu vois, là, t'évoques Camavinga, il y a beaucoup, beaucoup de gens, enfin, du moins, j'ai pu comprendre et je suis plutôt d'accord avec ça sur le fait que Camavinga, défensivement, a été quand même plutôt sous l'eau. Offensivement, il a apporté des choses, mais défensivement, il a été un point faible de son équipe. Et il y a des gens, enfin, certains fans madridistes, qui estiment que c'est un peu à cause de lui quand même que le Real a encaissé 3 buts. Donc moi j'ai du mal à trouver des points positifs du côté du Real. Oui, Rodrigo par exemple a été flamboyant et décisif et c'est ce qu'on attend de lui je pense dans un tel match. Valverde a été bon. Vinicius aurait pu marquer mais Vinicius c'est pareil. Vinicius aurait peut-être dû marquer même au vu des actions qu'il a eues. Parce que je pense que Vinicius c'est pareil, c'est un joueur hyper attendu maintenant. Donc c'est difficile, hein. C'est vraiment difficile de trouver quand même comment dire de gonfler le résultat pour le Real. Enfin, du moins pour le rendre plus beau qu'il ne l'est, quoi. Parce que encore une fois, d'ici le retour, on a du mal à croire que les choses peuvent tourner en leur faveur.
Et bah très bien, merci pour cette analyse complète de ce match-là. On passe à mercredi. Donc mercredi, on va commencer, on va rester à Madrid, tiens. Et on va aller du côté du Wanda Metropolitano, où l'Atlético Madrid, les Colchoneros, recevaient le BVB, le Borussia Dortmund. Et là, vous êtes tous impressionnés par mon accent, ma connaissance de ce nom. Voilà, comme un vulgaire commentateur qui n'a pas trouvé ses fiches et qui se rattrape comme il peut. Donc sur ce match-là, il y a eu une grosse entame de la part de l'Atlético qui marque d'entrée avec Rodrigo De Paul le premier but. Derrière, le jeu de l'Atlético se met en place, domine totalement Dortmund et met un second but assez logiquement en seconde période à la 32e minute. Puis en seconde période, on sent que l'Atlético lâche un petit peu le match. Le BVB reprend un petit peu de la domination, rate quand même pas mal d'occasions. Ils sont malheureux, ils mettent deux poteaux, mais Haller arrive quand même à marquer un petit peu le but de l'espoir à la 81e minute de jeu. Le match se finit là-dessus, Atlético 2, Borussia Dortmund 1. Un match qui, là aussi, bah, comme tous les matchs, on va se répéter, mais où le suspense est encore de mise, surtout sur le match retour à Dortmund. Sur ce match, il y a eu quand même deux visages de l'Atlético, il y a eu deux visages de Dortmund. Comment vous l'analysez? Est-ce que vous pensez que c'était une volonté de la part de Simeone de lâcher un petit peu du lest et de laisser le Borussia maître de son jeu en seconde période? Pour ensuite essayer de travailler sur un contre, des transitions qui auraient pu assouvir le 3-0. Tu l'as sorti toi comme ça, Elliot?
Ouais, tout à fait. Mais en fait, parce que je pense que l'Atlético de Madrid a fait l'Atlético de Madrid, a fait ce qu'il savait faire de mieux, enfin ce qu'il sait faire de mieux. Et un peu pareil du côté du Borussia Dortmund, sauf que Dortmund bah, ne sait pas vraiment être efficace ni réaliste. T'as parlé des deux poteaux. Moi, j'ai surtout envie de parler des erreurs individuelles qui ont causé les deux buts, quoi. Hummels qui se trouve sur le deuxième, alors qu'en ce moment il est très fort, enfin du moins en ce moment il est plutôt bon. Et sur le premier but, c'est le pauvre petit Madsen qui découvre un peu ce monde-là quand même. Lui qui à Chelsea, il me semble, n'a jamais eu l'occasion de disputer de tels grands matchs, qui cause le premier but. Donc encore une fois, voilà, Dortmund qui se fait pénaliser parce que les individus ne savent pas gérer suffisamment la physionomie. Donc c'est un peu dommageable, c'est même très dommageable. Surtout quand on sait que l'Atlético de Madrid comptait pas forcément prendre les choses en main. Voilà, Dortmund sait avoir la possession du ballon, mais comme depuis je ne sais combien d'années, ne sait pas vraiment quoi en faire. Et alors oui, il y a eu un peu de malchance, mais moi je trouve que si tu proposes à quelqu'un qui n'a pas vu les deux équipes jouer cette saison, tu leur mets ce match-là, c'est hyper représentatif, quoi. Voilà, les Sticos jouent un peu comme ça depuis le début de saison. Bon, c'est un peu séculaire en Ligue des Champions, il a toujours joué comme ça, mais Dortmund, pour le coup, bon, je trouvais que voilà, elle a proposé ce que malheureusement elle propose en Bundesliga. Et ça, je pense, ça annonce la couleur pour la suite. C'est-à-dire qu'on sait très bien que l'Atletico va venir pour bétonner au Signal Iduna Park. Et on espère pour les fans de Dortmund qu'il va y avoir des mecs qui vont réussir à mettre la balle au fond. Parce que sinon, le 0-0 va vite arriver, je pense.
Ouais, on parlait d'Arsenal comme quoi ils n'avaient pas, voilà, ils n'avaient pas le passif du Bayern, n'avaient pas l'expérience peut-être requise pour être inquiétés. Là, pour le coup, Atlético et Dortmund, ça reste quand même des grosses locomotives qui sont quand même habituées aux phases finales de Ligue des Champions. Et je trouve que c'est pas normal qu'il y ait autant d'erreurs comme ça de non-maîtrise, perso. Ok, bon, Dortmund, je dis qu'ils sont habitués enfin, dans les huitièmes. Enfin, on va dire, j'ai vu ta tête, genre les huitièmes, au moins les huitièmes et l'écart, quoi. C'est quand même des gros habitués. Ils y étaient l'année dernière, ils étaient il y a 2 ans, ils étaient des grands habitués, quoi. Et je trouve quand même que. Et des erreurs qui sont pas normales, mais je trouve que ça reste quand même ça a été quand même une belle affiche, même si oui, comme on l'a dit, c'était longtemps à sens unique. C'était dur de passer quand on a vu tous les caviars qu'on a eu dans les autres matchs. Forcément, on a un peu déçu là de celui-là, mais je trouve quand même qu'il y a quand même un match retour qui se profile qui va être très intéressant, même si l'Atlético va bétonner. Dortmund va devoir se sublimer, et c'est quand on n'attend pas Dortmund qu'ils sont capables de faire de belles choses. Hein. On l'a vu dans le classiqueur aussi, qu'ils ont très bien négocié. Donc, à voir ce que ça va donner.
Pour répondre à toi, Alan, et après je te cède la parole, Flo, si t'as envie de dire quelque chose, mais sache que Dortmund a fait quart de finale il y a 3 ans, comme cette saison. Il y a 2 ans, ils avaient été éliminés en phase de poule, souviens-toi, et l'année dernière, ils ont été éliminés par Chelsea en 8e. Et avant le quart, il y a 3 ans, perdu contre City à l'époque où Haaland avait fait peur d'ailleurs à l'équipe de Guardiola, il fallait remonter à 2017 pour trouver la trace d'un quart de finale. À l'époque, perdu contre Monaco, vous souvenez-vous, avec l'histoire du
Mbappé.
bus, malheureusement, de l'attentat. Donc en fait, Dortmund, oui, parfois, enfin souvent, atteint la phase d'élimination directe. Mais quel est malheureusement le point commun de toutes ces qualifications? C'est qu'à la fin, il y a une élimination relativement logique, parce que Dortmund ne sait pas faire grand-chose et n'arrive pas à s'affirmer à ce niveau-là. Ils n'arrivent pas à prendre les choses en main et à se sublimer, à faire une rencontre référence, en mode où tu te dis, ah ouais, là, ils ont maîtrisé le sujet, c'est normal qu'ils passent, c'est normal qu'ils gagnent. Non, à chaque fois, on a l'impression que, et c'est, selon moi, on en parle souvent, en plus, temps additionnel, avec Dortmund qui ne propose pas un football à la hauteur de ses ambitions, et même à la hauteur de ses individualités. Et à chaque fois, on se retrouve avec un Dortmund décevant qui passe à travers ses rencontres. Surtout quand on sait que parfois ils avaient l'opportunité de passer. Enfin, l'Atlético de Madrid, c'est peut-être légèrement au-dessus d'eux,
Oui, bah, c'est
mais
ce
c'est
que
un
j'allais
tirage
dire.
favorable pour eux, quoi, au final.
Bah, c'est ce que j'allais dire, oui, Atlético Madrid, c'est le même bateau, hein, parce que quand ils étaient en 2016-2017, où ils étaient en demi, bon, ils font 2 finales entre 2014 et 2016, c'est vrai, mais depuis 2017, c'est éliminé max jusqu'en quart à chaque fois. Donc c'est aussi ces deux équipes qui sont quand même habituées à jouer les quarts et les huitièmes, mais je trouve quand même qu'il y avait des erreurs assez anormales, sur des erreurs techniques notamment, ou des erreurs de pression que je trouve bah, anormales à ce niveau-là. Et je pense que malheureusement, enfin, on va pas se projeter maintenant, hein, mais je pense que le vainqueur de Real City aura de PSG Barcelone aura un bel avantage pour les demi.
On a parlé quand même pas mal d'erreurs et de dysfonctionnements. Il y a quand même un joueur sur lequel je voulais rendre hommage et mettre un peu la lumière. C'est Griezmann, qui a fait quand même un grand match, qui a tenu son rang, qui a vraiment été le maître d'orchestre, le chef d'orchestre de l'Atlético, qui a eu le statut d'homme du match assez logiquement. Mais c'est grâce à lui que l'Atlético peut compter, on va dire, sur un jeu léché et une efficacité. On va encore se répéter, mais ce jour-là est exceptionnel. Il est créateur, il est à l'occasion, il est à l'origine, il est à la conclusion. C'est vraiment pour moi le joueur le plus important de l'Atlético aujourd'hui, celui qui bonifie un petit peu tous les joueurs autour de lui. Et c'est vraiment l'un des seuls qui s'est mis au diapason Ligue des Champions pour emmener cette équipe et puis leur faire prendre l'avantage. autour de lui, ça a été quand même un peu plus compliqué. Certes, De Paul met le but, mais je le trouve quand même très très limite et pas assez tranchant dans le reste du match. Morata passe à côté aussi. Ça a été un match quand même, je trouve, où hormis Griezmann, en fait, sur les 21 autres acteurs, parce que je vais aussi inclure le Borussia, il n'y a personne qui a fait un match référence en Ligue des Champions. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas?
Lino là, est quand même intéressant, je trouve, à gauche, mais oui, comparé à Griezmann, c'est vrai que c'est le jour et la nuit. Surtout Griezmann, il est pas dans, enfin, il revient de blessure, etc. Il est pas dans ça, il est pas à 100% de ses moyens, je trouve encore. Hein. Je pense qu'il a, il est pas, voilà, il va récupérer petit à petit. Donc, franchement, lui aussi, hein, c'est, ça reste un joueur, oui, comme tu as dit, fabuleux, qui est décisif face à Dortmund encore une fois et sur qui. L'Atlético est obligé de compter et s'il n'est pas là, bah forcément, je pense que Dortmund aurait eu un avantage même psychologique parce que mine de rien, Griezmann, quand tu l'as sur le terrain, même s'il n'a pas le ballon, tu sais que ça te donne quand même une certaine sérénité. Et oui, c'est bien qu'on parle de lui en bien parce que c'est un joueur fabuleux, comme tu l'as dit. Et je suis content pour lui et j'espère qu'il va aller le plus loin possible, aussi bien avec l'Atlético qu'avec l'équipe de France à la fin du mois de juin, de mois de juillet, pardon.
Juste Flo, quand je regarde comment dire, les deux compos là, il faut quand même rappeler que des joueurs par exemple comme Oblak et Koke ont pu réaliser des performances XXL par le passé. Bon, ça commence un peu à remonter en Ligue des Champions, on est d'accord, mais tout de même. Et typiquement, tu vois, ce sont deux joueurs qui peuvent se souligner au meilleur des moments. On sait que l'Atlético, c'est rendre une copie presque parfaite lorsqu'il faut conserver un score, lorsqu'il faut éliminer un adversaire de façon un peu cruelle. Ils savent le faire. Moi, j'ai en tête le match à Anfield, où en fait, tu avais l'impression que c'était un Atlético qui était incapable de faire ce qu'ils ont fait. Et tu vois, Alan, quand tu dis que bah, le PSG ou le Barça pourra probablement se frotter les mains en demi, c'est pas sûr. Il y a un monde où l'Atlético arrive à embêter les deux équipes, même si on sait que l'Atlético fait souvent un complexe d'infériorité face au Barça, du moins en championnat ces dernières années. Ce serait pas étonnant que l'Atlético soit un peu chiant quand même à jouer au tour suivant. Mais par contre, je suis d'accord, côté Dortmund, bon, à part Hummels, et encore Hummels, ça fait des plombes qu'il n'a pas eu un match référence en LDC. Mais non, ouais, je pense que Griezmann est au-dessus du lot et l'Atlético, c'est clair, a de la chance de l'avoir. Parce que c'est clair que sinon, ouais, bah, sinon je pense qu'il n'y aurait pas eu victoire. Hein. On est d'accord.
Et puis il y a même comme la façon dont ils ont éliminé l'Inter, hein, tu as raison, hein, pour aller dans la continuité de ce que tu dis. L'Inter, quand il faut embêter, quand il faut être là, tu as raison, en fait, ils sont là. Et bah, du coup, je vais faire mon mea culpa, parce que oui, effectivement, je pense que si Atlético va en demi, ben, ça ne sera pas un cadeau. Par contre, si c'est Dortmund, j'ai un peu plus de. Moins de. Ouais, moins de comment on dit, je ne sais plus. Moins de.
Certitude.
Certitude. Non, ce n'est pas ce mot-là, mais ce n'est pas grave. Oui, je sais plus ce que je voulais dire, mais en tout cas, oui, non, mais je te rejoins quand même, Elliot, là-dessus. Et c'est vrai que oui, ben Griezmann, bravo. Et il a quand même des soldats qui sont là pour jouer pour lui, comme le De Paul, quand même, a été. Il n'a pas fait un match aussi fort que Griezmann, mais je trouve quand même que De Paul, de la même manière que Lino, un peu a réussi quand même à porter cette équipe des Colchoneros.
Moins de réserve, tu voulais dire, non?
Ah ouais, c'est ça, exactement, réserve.
Alors,
Je suis pas
vraiment,
habitué, je ne jouais jamais en réserve quand je pour ça que je les bannis ce mot.
Oh là là, le jeu de mots.
Une très belle complémentarité entre vous deux, en tout cas. On sent un petit peu aussi la connexion que Griezmann peut avoir avec De Paul, justement.
Tu la caution dictionnaire de ce podcast, c'est cool. C'est
Mais
légal.
non, tu es tout aussi important. Et on va parler du dernier match, le dernier match qui se joue en France, au Parc des Princes, le PSG qui recevait le FC Barcelone avec un match assez chaotique quand même, où Barcelone arrive à inscrire le premier but en première mi-temps, derrière le PSG égalise et puis sur un coup de folie, 2 minutes complètement folle, repasse devant et derrière Rafinha mettra un doublé et Christensen en fin de match scellera la victoire barcelonaise. Un match dont du coup quand même peut-être le plus chaotique des 3 autres affiches qu'on a pu voir avec moins de mise en place tactique, beaucoup plus de jeux de transition et d'explosivité, des moments de chaos dans les deux équipes qui ont causé du tort et qui ont causé aussi des phases de temps de faiblesse assez hallucinantes. Comment vous analysez ce match? Toi, là, je vais commencer par toi, Eliott. Comment tu analyses ce match et qu'est-ce que tu en as pensé?
Comment je l'analyse? Je pense que on n'est pas loin de la honte pour le PSG. Dans le sens où, moi, il y a deux choses qui m'ont particulièrement marqué. Déjà, l'entame de match n'est pas possible. Enfin, une telle entame de match n'est pas possible, premièrement. Deuxièmement, suite aux deux buts en début de seconde période, tu peux pas laisser la rencontre t'échapper. C'est pas possible, en fait. Psychologiquement, tu frappes un tel coup que normalement, derrière, ton adversaire, il est entre tes crocs et tu le lâches pas. Et en fait, bah justement, pour le coup, se relâcher de cette façon, c'est juste pas possible. Moi, j'ai eu l'impression de revoir un PSG d'il y a quelques années qui était incapable de se montrer serein malgré une avance au score. D'autant plus que Luis Enrique, sur le banc, laisse penser que, bah, normalement, ouais, ça se passe bien, quoi. Et d'ailleurs, Luis Enrique, en fin de match, n'avait absolument pas les clés pour redémarrer le camion, et ça, c'est pas normal. Donc, non, je trouve que le PSG est un peu indigne de son rang, en fait, cette semaine. C'est-à-dire que, par beaucoup, et pour moi, et selon moi, à juste titre, était vu comme un favori, du moins pour l'aller. Et au final, ils ont absolument pas respecté leur statut. Malgré le fait que, justement, à la 50e, on se dit, ah, bon, bah voilà, ça y est. Ils ont trouvé le moyen de renverser la situation. Maintenant, il faut conclure, et ils n'ont absolument pas su le faire. Et ça, ouais, non, c'est pas normal. Et du coup, maintenant, en vue du match retour, ils sont dans une situation tellement confortable que je pense très peu de personnes prendront le risque de les voir se qualifier. Alors que, bah, encore une fois, pour moi, sur le papier, c'est supérieur, en fait, au Barça, quoi qu'on en dise. Je sais que un certain Imad, chez nous, chez Tenditionnel, a milité ces derniers jours pour essayer de redorer un peu le blason de son club. Et j'entends les arguments, mais pour moi, ce Barça-là n'a pas forcément naturellement sa place, ouais, dans le dernier carré. Donc, voilà, passer à côté d'une telle rencontre, du moins sur le plan de l'importance, c'est pas pardonnable. Et voilà, il va falloir prouver, enfin, pour le coup, il va falloir vraiment prouver beaucoup au retour s'ils veulent pas passer encore, enfin, sortir par la petite porte, parce que, comme chaque année, on nourrit énormément d'ambition vis-à-vis du PSG, et ils trouvent toujours le moyen de décevoir. C'est dommage. Et je vais venir là-dessus, justement, sur le plan de l'exception. En fait, quand tu mènes 2-1 et que tu te relâches de cette façon-là, et que tu vois l'adversaire revenir au score, puis ensuite passer devant, moi, l'attitude qu'ont dégagé les joueurs parisiens, c'était assez insupportable à voir. Vraiment, tu te demandais comment c'est possible de laisser passer une rencontre, quoi, de cette façon-là. C'est ouais, c'est je même là, en parlant, il y a à la limite le cœur un peu qui parle, parce que je me dis ouais, c'est tout sauf normal.
Mais surtout qu'on sait que le FC Barcelone, ils n'arrivent pas justement à remonter les scores. À chaque fois, ils galèrent pour ça et là, ils arrivent et c'est face au PSG comme par hasard. Donc, c'est vrai que c'est problématique et c'est là que tu dois vraiment te poser des questions. Ce PSG, malheureusement, enfin, du moins la prestation d'hier, elle est vraiment pas bonne. Oui, je te rejoins complètement, Elliot, là-dessus, parce que il y avait la place pour vraiment gagner, même sans être trop inquiété finalement. Et ils se sont fait bah, remonter de la plus belle des manières, notamment avec les coachings payants de Xavi, qui pour le coup, bah, lui, depuis qu'il sait qu'il a annoncé qu'il devrait plus être l'entraîneur de la saison prochaine, bah, tu as l'impression que le Barça joue beaucoup mieux, beaucoup plus libéré. Bah, ça fait plaisir de voir une équipe du FC Barcelone capable de montrer qu'elle a des atouts à faire valoir. Parce que moi, je te rejoins un peu moins, Elliot, sur le papier. Je trouve quand même que tu as quand même des joueurs du FC Barcelone. S'ils sont dans de bonnes conditions et s'ils sont voilà, en plénitude de leurs moyens, bah, ça reste quand même un 11 qui a vraiment une belle gueule. Hein, parce que les Gundogan, Lewandowski, De Jong, même si De Jong, moi, je n'ai pas été fan de son match, mais De Jong, Araujo ou même Ter Stegen, ça reste quand même une ossature vraiment solide pour un club comme le FC Barcelone. Donc, moi, j'ai passé un. Franchement. On l'a dit, hein, c'était pauvre au niveau technique, etc. Mais quand tu sais que le PSG va porter le FC Barcelone, la moralité, c'est que c'est toujours un divertissement à regarder, même à défaut du jeu. Et on passe toujours des moments de fou. Et c'est assez fou ce qui se passe depuis ce spectre de 2017 entre ces deux clubs.
Vous critiquez le PSG à raison. Est-ce que vous ne trouvez pas non plus que Barcelone n'a pas été non plus exceptionnel? J'ai trouvé honnêtement, moi, de mon côté, que la tactique de Xavi était quand même assez aléatoire, elle était assez basique. Il n'y a pas eu beaucoup de plans de jeu, hormis bétonner en défense et puis miser sur la forme des trois devant. J'ai trouvé que ça manquait quand même pas mal d'inspiration et qu'il n'y avait pas non plus de plan de jeu défini, que les deux équipes sont un petit peu annihilées par leur néant tactique qu'il y avait dans cette confrontation. Je ne sais pas si tu me rejoins, toi, Elliot, ou pas.
Oui et non. Oui et non, parce que la propension à trouver la faille en première période, je trouve qu'elle est plutôt significative, elle est pas vraiment hasardeuse. Il faudrait que je regarde les stats, là justement, j'allais regarder, vérifier le tableau, mais il me semble pas que le Barça a énormément subi non plus. Au contraire,
Non,
je
non,
trouve
alors
qu'ils
je
ont
dis
été.
pas qu'ils ont subi, j'ai juste parce que dans la construction de leurs actions, dans la façon dont ils ont créé des occasions, il y avait quand même pas beaucoup de responsabilités qui étaient prises au milieu de terrain et que ça reposait beaucoup sur les transitions et sur la capacité des offensifs, on va dire, à se créer des occasions un peu tout seul. Alors, Lewandowski a fait un énorme match, ça je veux pas le dire, mais je trouve que dans la création, dans l'entrejeu, c'était quand même un petit peu suffisant parfois et pas forcément au niveau de ce qu'on a pu voir sur d'autres matchs.
Peut-être. Je sais pas. Moi, je trouve qu'en fait, le Xavi a appuyé là où ça faisait mal et ça a fonctionné. Oui, dans un sens, c'est basique, mais je sais pas. D'un autre côté, c'est plutôt bien pensé. Enfin, il y a eu du pressing, il y a eu de l'intensité.
Oui, c'est vrai.
Et en fait, quand on se rend compte, est-ce que franchement, dans un match si important, est-ce que le Barça récemment a été aussi juste? Non. Donc, dans ce sens-là, je trouve que c'est une bonne chose. Après, ça se trouve, effectivement, ça se trouve, on ne sait pas. Ça se trouve, Xavi dit ça, a toujours dit ça à chaque fois. Et là, parce que c'est le PSG, ça a fonctionné. Mais je pense pas. Je pense que pour le coup, la globalité de l'équipe s'est mise au diapason. Elle a réussi à fonctionner. Je pense que c'est pas non plus un hasard. Je pense que c'est pas juste parce que le PSG en face n'a pas répondu présent. Je pense que le Barça, en tout cas, moi, personnellement, m'a impressionné. Enfin. Dans le sens, je pensais pas qu'ils étaient capables d'être méchants de cette façon-là aussi rapidement dans un match. Voilà. Après, dans mon livre, le PSG prend les choses du bon bout et donc ne laisse pas la place à un adversaire normalement peut-être un peu plus emprunté. Mais bon, au final, ça a fonctionné. Au final, Lewandowski a été relatif, enfin a été comment dire. A reçu des louanges plutôt méritées, enfin voilà, je veux dire, les injustices se sont sublimées et les consignes étaient peut-être ouais, basiques mais claires et efficaces, donc je pense que c'est le principal. La question c'est est-ce que si le PSG élève son niveau de jeu, est-ce que le Barça est capable de faire la même chose? Ça, oui, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que non, que le Barça va devoir faire encore mieux, je pense, au retour pour être sûr de valider la qualif.
Mais parce que tu dis pas des individualités, pardon, excusez-moi. Justement, c'est vrai que côté barcelonais, on a commencé à en parler, mais des joueurs comme Araujo, Cubarsí, je vais arrêter mon accent espagnol, c'est catastrophique. Araujo, Cubarsí, Gundogan, Rafinha et Lewandowski ont fait un match exceptionnel et au niveau de que l'on l'attendait. On sent quand même que l'expérience de Cancelo et Gundogan font quand même énormément de bien, Lewandowski aussi, à cette équipe qui. Pour d'autres joueurs un peu inexpérimentés à ce stade-là de la Ligue de la compétition. Rafinha, moi j'ai vraiment retrouvé le Rafinha qu'on avait à Leeds avec ce joueur de transition qui peut être tueur devant le but et qui est très très efficace dans la surface adverse et ça fait plaisir à voir. En contraste avec un PSG où honnêtement il y a eu des individualités qui ont fait beaucoup peur. On pourrait encore se questionner sur l'utilité d'aligner un Beraldo en défense centrale à ce stade de la compétition. Il a été complètement noyé par l'enjeu et il a fait un match plutôt catastrophique. Donnarumma, je pense que tu pourras en parler à Alan, c'est ton joueur un petit peu.
Ah, super.
Non, qui est passé à côté du match. Vitinha a été plutôt bon, mais le reste, c'est tout. Dembélé, il a fait du Dembélé. Mbappé, je ne sais pas si on peut encore en parler du match de Mbappé. C'est pas le premier rendez-vous, il passe à côté, c'est sûrement pas le dernier qui, avec ce état d'esprit et cette mentalité, ça a été vraiment, on va dire, un petit peu. Là où aussi le bât blesse, c'est que les individualités blaugranaises ou blaugrana, excusez-moi, oulala, je me suis fait beaucoup d'ennemis là, je pense d'un coup, excusez-moi, les individualités, j'ai beaucoup de mal avec ce mot aussi ce soir, donc je m'excuse. Les joueurs du côté de Barça, se sont quand même mis au diapason, alors que côté parisien, c'était absolument l'inverse.
Ouais, bah si je peux rajouter vite fait un petit mot sur Donnarumma, j'ai pas envie de, voilà, ça serait trop facile. Je sais que Donnarumma, c'est, voilà, on sait qu'il est très en forme, il y en a qui disent que c'est même le meilleur joueur de Ligue 1 cette saison, mais force est de constater que c'est une personne qui, du moment qu'il va faire une boulette pendant le match, ben ça va empirer tout le long, et ben du coup je trouve quand même regrettable que ça soit un gardien qui, malgré toutes les nuances qu'on peut lui apporter, est très médiocre sur tous les aspects d'un gardien, que ce soit les sorties, que ce soit le jeu au pied, que ce soit les arrêts sur la ligne qui aujourd'hui, mercredi soir, n'ont pas été bons. Moi, je trouve ça anormal, et franchement, c'est scandaleux ce qu'il a proposé hier soir, et je suis bien content, perso, je tenais à le dire, et les autres joueurs, on va pas taper pour taper dessus, mais c'est vrai qu'il y a eu des défaillances vraiment importantes du côté du PSG. Il va falloir régler ça au retour.
Selon moi, je pense que Donnarumma, c'est ce que je voulais aussi dire, Alan, donc tu l'as bien dit, je vais pas redire ce que tu as dit, mais oui, pour moi, c'est Donnarumma le premier fautif. Je pense que même si Mbappé fait une mauvaise prestation, si Donnarumma n'avait pas fait les bêtises qu'il a fait, je pense que le PSG aurait sûrement pu beaucoup mieux s'en sortir. Dans le sens où typiquement les relances ont été désastreuses, et voilà, il est coupable de son mauvais jeu au pied, tu l'as dit d'ailleurs. Avec du recul, on se dit mais comment c'est possible en fait d'avoir un tel gardien lorsque ton entraîneur c'est Luis Enrique, qui justement incube de beaucoup de responsabilités à son gardien. Donc je sais pas, c'est délicat, mais ça prouve qu'il faut vraiment lui demander d'arrêter de je sais pas, je Moi, je comprends pas comment c'est possible effectivement de faire de telles erreurs. On en revient à ce que tu disais tout à l'heure, Alan, de telles erreurs à ce niveau-là. Et pour le coup, Donnarumma, c'est pas la première fois en fait qu'il fait ça. Et
pourtant.
Et ouais, je sais pas comment ça va se passer au retour, mais il va pas avoir le choix en fait que de sortir peut-être limite une masterclass, parce que sinon son équipe va pas s'en sortir. Mais je sais pas, c'est assez inexplicable de se dire que il reproduit souvent les mêmes erreurs, quoi. C'est
à 12 millions par 12 millions par an, hein.
Non mais tu sens en fait que sur les actions de jeu, parfois tu as l'impression qu'il, je sais pas, il a laissé le cerveau à la maison, enfin je sais pas où il est le cerveau, mais je sais pas, j'ai l'impression que il perd tout de suite ses moyens. En fait, t'as l'impression qu'il a plus aucune lucidité dès qu'il est mis sous pression. Tu vas me dire c'est normal en fait, c'est le principe du sport, quand t'es mis sous pression l'être humain il perd en lucidité, mais en fait le but d'un joueur professionnel c'est que il soit lucide en fait. C'est pour ça que les plus grands joueurs en fait, même dans des moments importants, ils sont forts, parce que rien ne les atteint. Et Donnarumma, t'as l'impression que c'est pas du tout le cas, et malheureusement pour le PSG c'est quelque chose qui arrivait tellement de fois qu'on se dit mais enfin je sais pas, changer quelque chose quoi. Et bon, même avec Luis Enrique en fait rien ne change, donc pour ça c'est ouais, dans cette fin. C'est difficile de ne pas être pessimiste, en fait, de ce point de vue-là.
Les gars, ça fait déjà une heure qu'on parle un petit peu de ces quarts de finale-là. Je vous propose d'arrêter pour l'analyse. En tout cas, merci à vous. Pour conclure cet épisode, que diriez-vous de petits pronostics sur les qualifiés qu'on aura en demi-finale ? Est-ce que ça vous branche ? Est-ce que ça vous branche ? Oh, la phrase de quarantenaire ! Ah, c'est dur ! Oh là là.
C'était très sérieux, et puis là, d'un coup...
Ouais, non, c'était dur. Alan, alors
Du coup, moi, je vais rester sur les mêmes équipes que j'ai pronostiquées avant la première phase. C'est-à-dire que je vois le Bayern, désolé Flo, je vois le Bayern passer. Je vois le FC Barcelone passer, comme je l'avais annoncé, et Manchester City et l'Atlético Madrid.
Moi, j'ai presque pareil, mais pour le coup, je vais m'en tenir aussi à mes pronostics initiaux. Je voyais le City passer, et pour moi ça n'a pas bougé. Je voyais Arsenal passer, et je pense que malgré le 2-2, ils sont capables de le faire à l'Allianz Arena. Pour le football, s'il vous plaît, faites en sorte que Thomas Tuchel, on ne le voit plus pendant un certain temps. Aussi le Bayern, ça arrangerait pas mal de gens. Et puis ça m'arrangerait aussi de ne pas donner une certaine somme d'argent à un certain membre de ce podcast, qui n'est pas présent, mais à qui on pense fort, puisque justement je ne vois pas Dortmund passer l'obstacle de l'Atletico. Jusque-là, c'est pas des grands risques. Par contre, je vois le PSG réussir l'expo à Montjuïc, et justement le fait que ce soit pas au Camp Nou, pour moi, c'est un élément assez important à souligner. un élément qui pourrait s'avérer fondamental dans la qualification. Et le PSG deviendrait dans ce cas-là le premier club français, il me semble, si j'en crois la stat passée, que à se qualifier, pardonnez-moi, après avoir perdu à domicile. Donc, faudra voir si ça le fait, mais voilà, je vois bien, comme prévu, un PSG Atlético en demi et un Arsenal City.
Eh bien, merci Optaliot encore une fois pour la stat du jour. De mon côté, c'est difficile aussi de faire aussi un petit peu la distinction entre mon supporterisme et puis la raison. J'aimerais qu'Arsenal passe, je les vois passer, mais attention, il va falloir être très costaud à l'Allianz Arena. Donc, ce sera un match très ouvert, mais j'espère qu'Arsenal passera, et donc je vais continuer avec Arsenal. Du côté de City-Real, je vois quand même le Real prendre City par surprise sur des transitions, ce ne sera pas un match du Real, mais je les vois faire mal et prendre leur revanche par rapport à l'année passée. Et dans l'autre tableau, l'Atlético passera contre Dortmund, ça n'y a aucun problème. Et puis comme toi, je ne veux pas devoir de l'argent à un certain chroniqueur, surtout qu'il y a quand même l'argent de la chambre de ma fille qui est en jeu, donc je ne veux pas qu'elle dorme par terre. Et puis sur l'autre rencontre, j'ai du mal, mais je vais quand même partir sur Barcelone. Je ne vois pas le PSG, je vois une trop grosse faille collective au PSG pour que les individualités sauvent un petit peu ce PSG-là contre Barcelone. Donc voilà, les paris sont pris. Et on verra la semaine prochaine si on est des tocards ou si on est des génies.
Mais tu vois donc Arsenal seul rempart au football espagnol alors que nous sommes en 2024. Et c'est bien pour cette raison que je te déteste encore plus.
Et ouais, et malheureusement, je pense honnêtement qu'en demi-finale, Arsenal va essayer grâce, il passe. Il y a trop de limites dans l'expérience de jeu pour qu'Arsenal, sauf s'il y a vraiment une révélation et un match référence à l'Allianz Arena. Mais aujourd'hui, sans match référence, tu vois pas Arsenal passer les demi-finales.
Donc voilà, si vous l'avez entendu ici en premier, un classico ou un derby. Faites votre choix. Mais pas pour moi, en tout cas. Je passe mon tour.
Réponse la semaine prochaine, en tout cas. Les gars, merci à vous, encore une fois, pour votre participation et pour votre bonne humeur et vos analyses. Franchement, on a fait 1h10, 1h10 de banger, comme disent les gens. Oh là là, je suis un boomer, c'est fou, c'est horrible. On vous retrouve, en tout cas, toi, Elliot, toujours sur Flash Score, avec des articles qui vont arriver, j'imagine, sur la Ligue 1 ce week-end.
Ouais, notamment une analyse sur... Pourquoi Lens devrait peut-être penser à un projet Ligue Europa plutôt qu'un projet Ligue des Champions? Il n'y a pas que moi qui le dis, puisque un certain Franck Hez est le premier à relativiser.
Et ben, j'ai hâte de lire ça de mon côté. Et puis Alan, le rendez-vous est pris pour Kairos Onero, un podcast samedi du coup qui sortira. On parlera de ce match de Europa League qui va commencer d'ici 15 minutes et sur Antonio Cassano, l'enfant terrible du foot italien.
Exactement. Merci Flo et... j'espère qu'on va, je vais avoir raison pour les pronos la semaine prochaine. Il y aura émission jeudi, hein, j'imagine. Donc si je suis là.
Il y aura émission jeudi. J'espère que tu n'auras pas raison. En tout cas, sur un compte en particulier. En tout cas, merci à vous. Merci, chers auditeurs. Vous pouvez toujours nous mettre votre meilleure 5 étoiles sur les réseaux sur lesquels vous nous écoutez. N'hésitez pas à activer la cloche et puis aussi à faire des retours sur Twitter ou sur Instagram. Ça fait toujours plaisir quand on a des retours. C'est vrai qu'aujourd'hui, on en a zéro. Donc si on peut en commencer à en avoir, ce serait pas mal. En tout cas, on vous souhaite une très bonne semaine de football, un très bon week-end qui se profile. C'était traditionnel. Salut !